Voilà, nous allons entamer cette deuxième partie d'émission avec la suite et la fin de l'interview d'Oliver Gallmeister. Et on peut dire que cette deuxième partie d'émission, ça va être un spécial James Cramley.
Voilà. On retourne à Quai du Poulain.
Donc voilà, donc, le dernier roman qui paraît aux éditions Gallmeister, pour moi une espèce de consacration, parce que c'est un romancier et c'est un roman mythique, c'est de reprendre, de retraduire James Cramley avec Fausse Piste, où l'on découvre le génial Milo Dragovic. Il est dans le Minnesota, sinon je ne me souviens plus.
Missoula,
la fameuse.
Montana.
Voilà. Donc, cette envie, voilà, c'est la famille. Il fait partie de la famille.
Ah, mais oui, ça serait presque le père fondateur de la maison d'édition en réalité. Parce que j'ai découvert Cromley lorsqu'il a été publié par Patrick Reynal. Alors qu'en réalité, il avait déjà été publié chez Albin Michel sous un titre absurde, Le chien ivre. Puis par Bourgois.
Il a beaucoup souffert d'être chez Dan
Cromley. Cromley a eu un destin éditorial très chaotique puisqu'il a eu 6 éditeurs sur 11 livres. Donc en fait, les lecteurs étaient complètement paumés et il est complètement passé à côté de son lectorat, à mon avis, pour des raisons d'édition. Donc pas très intéressant. Mais moi, c'est un auteur qui m'a fondamentalement marqué. Un auteur dont les romans se passent en grande partie, dans le Montana, avec des détectives qui boivent, qui ont le sens de l'humour et qui, pour se détendre, vont pêcher la truite, comment ne pas le publier
chez Gallmeister, bien évidemment. Et puis, c'est aussi toute l'histoire de l'Amérique, parce que ce personnage, Milo, entre eux, son grand-père, son père et lui-même, voilà, il raconte tout un pan de l'histoire de l'Amérique et il parle de tous les laissés pour compte. De l'American Dream et de tout ce qui se passe.
Vous êtes allé à Missoula ?
Pas encore, mais ça va bientôt venir.
Moi, l'été dernier, j'étais à Missoula et j'ai rencontré Martha Elisabeth, la veuve de Cromley, et qui m'a emmené dans le bar que fréquentait Cromley, le Charlie Bees, qui est le modèle du bar décrit dans le livre. Et en fait, les personnages qu'il décrit dans Fausse Piste, il y a des longs passages. Formidable, c'est une vraie comédie humaine.
C'est
où
magnifique.
Je parle de cet avocat qui a perdu la foi en la justice et qui a commencé à boire. Pareil pour un flic, le barman, lui-même, enfin. Et ces personnages, son père, quand il emmenait passer ses journées, ses après-midi dans les bars, c'est poignant. Et en fait, le décor, le bar qu'il décrit, physiquement, moi je l'ai vu, et c'est vraiment poignant, et c'est la vie de Cromley. C'est un immense romancier sur la mélancolie, la condition humaine. Et ça a l'air un peu prétentieux de dire ça, mais c'est ça l'intérêt du livre. Ce n'est pas les intrigues de Cromley qui sont
tout à fait. Et puis il y a une écriture absolument
mais
incroyable.
Mais il y a une telle empathie pour le genre humain.
Et une poésie, un lyrisme. On va en reparler dans quelques minutes après un petit morceau de musique. Merci beaucoup, Oliver.
Merci à vous.
Donc pour la musique, on va essayer d'illustrer au mieux les propos que nous venons d'entendre d'Oliver Gallmeister et Corinne. Donc une chanson de Tom Russell. Tom Russell est un musicien, un auteur-compositeur-interprète, on dit plutôt là-bas un songwriter. C'est pas tout à fait de la country, c'est de la musique américaine folk. Et cette chanson a une double occurrence parce que d'abord, pour son titre, elle s'appelle « The Ballad of Edward Abbey ». Et elle parle donc de Edward Abbey, dont on a parlé au début de l'émission avec Oliver. Et cette chanson m'a été conseillée, ou moins suggérée, pas vraiment qu'à moi d'ailleurs, puisqu'en fait c'est une information que j'ai retrouvée sur la page Facebook de Benjamin Whitmer, qui parle à un moment de cette chanson et de Edward Abbey. Donc, double occurrence, puisque Benjamin Whitmer, je rappelle, l'auteur de Pike et de Cry Favor, aime Edward Abbey et aime cette chanson. Et donc, Tom Russell chante tout seul, enfin pas tout seul, il est avec sa guitare, et il y a un violon qui l'accompagne, et il raconte sa rencontre avec Edward Abbey dans un bar de Tucson.
T'was in the town of Tucson, in 1983, a man named Edward Abbey come a-walking up to me. He pulled his seagull from his mouth, said, I smell lawyers here. The politician running dogs, they crawled away in fear. Sing a do-ra-do, sing a do-ra-day. Ed walked across the desert at least 1,000 times. He spoke with javelinas, slept neath pinon pines. And if he saw a billboard there, he'd chop that bastard down. Said if a man can't piss in his own front yard, he's living too close to town. Sing a do-ra-doo, sing a do-ra-day. Lord, I wish Edward Abbey were walking around today. Ed had a taste for women. In fact, he married quite a few. He said, I fall in love, boys, but I'm only passing through. You know I like them all, boys, and some more than the rest. I've tried my hand at monogamy, now I'm off to save the West. Sing a do-ra-do, sing a do-ra-day. It died one day at sundown in his Tucson riding shack. They wrapped him in a sleeping bag and drove him way out back. Beneath the wild saguaro, the coyotes chewed Ed's bones. And on a hidden marker was no comment carved in stone. Sing a do-ra-do, sing a do-ra-day. Yeah, I wish Edward Abbey were walking round today. Now I'm living in the desert, but the towns are closing in. Those cracker box developments Ed would call a sin. We stole this land from the Mexican, and now we'll sell it back. And they'll live like mortgage prisoners in those goddamn housing tracts. Tell me who votes for the mountain lion. Tell me who votes for the fox. Who votes for the spotted owl who hides there in the rocks? I wish that Ed would come again with a chainsaw in his hand and carve on up those housing tracts and take on back the land. Sing a do-ra-do, sing a do-ra-day. Yeah, I wish Edward Abbey were walking round.
Cet intermède musical, nous avons donc commencé à parler de ce roman, Fausse Piste, avec son éditeur Oliver Gallmeister, roman écrit par James Crumley en 1975, hein, ça fait quand même plus de 40 ans. Les éditions de Gallmeister, on n'a pas eu le temps d'en parler, ont donc le très beau projet de rééditer tous les romans du grand écrivain américain et après retraduction, de les publier à raison de un par an. Les auditeurs attentifs ont entendu d'ailleurs Gallmeister parler des 6 éditeurs successifs de Crumley à l'époque où on le découvrait en France. Son œuvre mérite vraiment le travail éditorial dans lequel s'est lancée toute l'équipe des éditions Gallmeister. Retraduction donc, je viens de le dire, Jacques Mayos, c'est un passeur extraordinaire. Le roman Fausse Piste, il est aussi illustré, il y a encore quelque chose en plus, il est illustré par Chabouté. Une planche par chapitre à peu près, des illustrations en noir et blanc et une intensité des aplats de noir, en gros comme pour mieux souligner la part d'ombre qui existe dans chacun des personnages de ce roman. Les ruelles sombres, les bars crasseux, enfumés. Fausse piste, dans la bibliographie de James Crumley, c'est en gros le second roman noir de celui-ci. Il met en scène, et c'est là qu'on le découvre, le détective Milo Dragovic, toujours un petit passage délicat à dire ce nom, c'est pour ça qu'on l'appelle Milo d'ailleurs, et lui il habite Meriwether dans le Montana. Milo a fait la guerre de Corée, il a été adjoint du shérif. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Aujourd'hui, il boit. Il enquête aussi. Et au début du roman, une très jolie jeune femme, Hélène, vient lui demander de chercher son frère Raymond. Raymond, ça vous dit peut-être quelque chose ? C'est aussi le prénom de Chandler. Je ne crois pas que ce soit un hasard. Le livre rend constamment hommage à cet écrivain et au personnage de Tough Guy, de dur à cuire. Ainsi, la scène, au début du roman, où Hélène vient dans le bureau du détective privé pour lui demander son aide. On ne peut pas s'empêcher, allez, on va faire quelques références cinématographiques, on ne peut pas s'empêcher de penser à Lorraine Bacall, Humphrey Bogart, Le Grand Sommeil, ça c'est tiré de Chandler, ou bien un autre tough guy, aimé toujours Humphrey Bogart, qui incarne Sam Spade, le héros de Dashiell Hammett, dans Le Faucon de Malte, quand il reçoit la visite de Miss, celle qui s'appelle au départ Miss Wonderfly, mais en fait, qui est Jacques ?
Miss O'Shaughnessy.
Brigitte O'Shaughnessy. Prononciation non garantie. Revenons quand même à Fausse Piste. Le détective va donc se mettre à chercher le frère de la belle, puisque, évidemment, il est tombé amoureux de celle-ci. Mais il va aller de déconvenu en déconvenu, de Fausse Piste en impasse, et de coup bas en coup dur. Sans oublier d'ailleurs les coups sur la tronche. N'oublions pas que c'est le parfait tough guy. Tout cela est vraiment super bien mené, rythmé par James Crumley. Mais c'est pas le plus important de ce roman. C'est d'ailleurs vrai pour tous ses autres livres. Ses aînés, on a parlé de Chandler, Hammett, on a dit un jour qu'ils avaient flanqué le crime dans le ruisseau. Ben, l'écrivain du Montana, lui, il va ramasser ses personnages dans le canifou. Et en les ramassant, il leur donne une humanité, une lumière, il les enrobe de tendresse. À commencer par Milo lui-même. La façon, par exemple, c'est anecdotique, mais c'est une très très belle histoire, la façon que le détective a de récupérer dans les friperies les anciens vêtements de son père décédé. Et ensuite, comment il les redistribue, et puis il le retrouve un jour, et ça continue le cycle. Et ça, rien que cette anecdote, ça vous prend les tripes, ça vous prend l'âme. D'ailleurs, tous ceux qu'il croise dans son rat de fétiche, ça vous prend aux tripes. À commencer par son ami Simon. Allez, Simon, comment on peut dire ? Un clochard céleste. Chacun des clients du bar mérite qu'on raconte son histoire, ses chutes, ses fêlures. Et ça, Crumley, il le fait sans apitoiement, sans mièvrerie, ni sensiblerie, ni surenchère dans le misérabilisme. Juste un petit peu de compassion et beaucoup d'amour. Et puis surtout un putain de talent d'écrivain pour le coucher sur le papier. Voilà, juste avant de vous lire un extrait un petit peu long, terminer en disant qu'on est ici dans ce qui se fait de mieux dans le roman noir. Que si j'avais à faire mon top 10, je m'y refuse toujours, mais si j'avais à faire mon top 10 de polar, je changerais certes de titre tous les jours, mais il y aurait toujours un roman de James Crumley, et souvent celui-là. Aussi donc, préciser que si cette histoire, comme je l'ai dit au départ, a été écrite il y a près de 40 ans, le récit n'a pas pris une ride. Certes, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de police scientifique, il y a un peu plus de hippies chevelus que de nos jours, mais Crumley, tout simplement, touche à l'universel, à l'intemporel. Il sculpte ses émotions avec un talent, comme je l'ai dit, immense. Vous avez compris, il faut vraiment découvrir, ou peut-être de redécouvrir cet écrivain. Écrivain, comme on l'a dit, de l'école du Montana. Bon, je pourrais encore vous en parler pendant très longtemps, mais on va tout simplement laisser la place à ces mots. L'extrait que je vais vous lire, c'est un hymne d'amour pour les rades, pour les bars. Mes plus beaux souvenirs d'enfance se sont forgés dans les bars, pas dans les eaux, pas en colonie de vacances, pas à l'occasion d'excursions familiales ou de pique-niques de la paroisse, pas en compagnie de l'élégante professeure d'anglais aux cheveux gris qui m'aidait à aimer Shelley ou Keats. Tout ça existait, mais les bars comptaient plus. Les bars de campagne, avec leurs boulines de table et leurs petites boubles qui semblaient faites pour mes petites mains, et un stock illimité de pièces de 25 cents à ma disposition. Les bars de cow-boys, où tous les hommes portaient des bottes. Et toutes les bottes avaient des marques d'usure à l'arrière du talon. Les bars chics, à la lumière tamisée, où les conversations feutrées semblaient toutes importantes. Voilà ce que je me rappelais avec amour. Et un vieil homme de plus de 90 ans, aux bras fanés, encore puissant de ses années de travaux de la ferme, suffisamment puissant pour que je me suspende à l'un d'eux par le menton. Et une cavalière de rodéo à la retraite qui m'avait appris à manier le lasso, à danser avec un lasso. Et toutes les histoires, tous les bars, tous les ivrognes. Et mon père qui m'y menait comme si j'étais son amulette porte-bonheur, son fidèle partenaire, sa fierté et sa joie. À sa mort, les bars m'ont manqué aussi cruellement qu'à un alcoolique en période de sevrage. Peut-être que ma longue entreprise de récupération de ces vieux vêtements n'était qu'une simple excuse pour traîner dans les bars. Quoi qu'il en soit, je crois bien que je suis heureux que les enfants soient admis dans les bars de notre État. Ça leur évite de traîner dans les rues. Ça soude une famille. Ça leur présente un monde où les inévitables accidents de la vie se pardonnent d'un haussement d'épaule et d'un « Bah, c'est pas grave, il avait bu ». En regardant le père et le fils sonder les profondeurs de la machine infernale de pierre, faisant jaillir dans la quiétude de l'après-midi des bouquets de lumière et des étincelles de bruit mécanique comme des pièces d'or jetées sur un coin de table, je me sentis heureux. Heureux, mais troublé. J'avais vu l'autre versant. J'espérais que personne n'aurait jamais à déplier aucune couverture grise pour recouvrir leur corps déchiqueté, ni à expliquer à un chauffard ivre au cerveau embrumé qu'il venait de tuer le jeune fils de quelqu'un. Finalement, c'était peut-être les automobiles qu'il fallait interdire plutôt que l'ivrognerie. Mais... Voilà, ces trois points de suspension vont terminer notre émission. Donc, voilà, je redis le titre. Il faut absolument se procurer ce livre et le lire, le dévorer, l'aimer. Ça s'appelle « Fausse piste », James Crumley, très bien illustré par Chabouté. Et c'est chez les éditions Gallmeister. Et c'est très bien traduit par Jacques Maillos. Voilà Jacques, on va dire au revoir à nos auditeurs.
Chacun dans son coin.
Avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
À bientôt.